Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez
RMC.
Pour revenir à cette Espagne, déjà ils ont la bonne idée de marquer très tôt, 10e minute, et puis après t'as le show Oyarzabal hein, qui marque son doublé 21e minute, 24e minute. Je crois même qu'il est, ouais, il est sur une passe décisive aussi. Enfin bref,
ouais, donc ouais, c'est, passe décisive.
Grande première mi-temps, très heureux d'avoir vu évidemment Yamal de retour sur le terrain. Je pense qu'il y a une Espagne avec et une Espagne sans. En attendant Nico Williams vraiment qu'il puisse débuter, en tout cas en espérant qu'il retrouve son niveau. Et puis Yamal qui est sorti, voilà, il l'a mis au frais, comme même dire Walid à la mi-temps. Honnêtement, alors est-ce que tu peux juger l'Espagne contre une Arabie Saoudite faiblarde comme ça? Je sais pas, mais au moins voilà, on va dire qu'il tient rang. Puis surtout, il se replace dans la course à la qualification, parce que bon,
son leader, hein, tranquillement.
On les avait mis ultra favorites, et c'est vrai qu'après ce match nul contre le Cap-Vert, on a commencé un petit peu à trembler, mais non, pas grand chose à dire, honnêtement. C'est compliqué, finalement.
Oui, bien sûr, t'as raison.
Parce qu'il y a tellement des équipes qui n'ont pas le niveau.
C'est qu'il a donc remplacé Fabian Ruiz par un milieu offensif, Baena. Donc là, s'il compte Pedri comme un milieu offensif, on va dire, dans le match aujourd'hui, en tout cas, il y avait Rodri tout seul devant la défense, et après cinq offensifs, entre tes deux ailiers, Oyarzabal, plus Pedri, plus Olmo. Contrairement au match du Cap-Vert, par exemple, où tu avais Ruiz et Rodri, et puis après, les autres. Et à un moment, est-ce que contre l'Uruguay, tu tentes la même chose? Avec Rodri tout seul devant la défense, finalement, et des joueurs de ballon qui vont confisquer le ballon, qui vont le faire tourner, qui vont être créatifs.
Tu peux le tenter, vraiment.
Tu vas entre les lignes, etc. Ou est-ce que tu as besoin, à un moment, de plus d'équilibre et plus, peut-être, de sécurité un peu plus défensive, entre guillemets, avec un Ruiz à la place de Baena ou de Olmo, par exemple? C'est la question qui va se poser. Peut-être pas contre l'Uruguay dans le prochain match, mais en tout cas, à partir après, ensuite des 16e de finale, etc., etc.
Moi, j'ai trouvé que le fait d'avoir mis Olmo quand même ça dans l'axe, ça a permis à Pedri d'être un peu plus bas sur le terrain. Ça n'a pas forcément été le cas le match d'avant contre le Cap-Vert, et il était moins bon dans cette position.
Moi, j'adore Olmo aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'un joueur comme ça, entre les lignes, qui est capable de
intelligence,
faire de fou,
placement,
c'est,
simplicité.
C'est indispensable.
Et puis Baena qui était pas mal, hein.
Ouais, Baena, tu vois, dans les passes, encore une fois. Mais après, est-ce que tu peux te permettre de faire ça contre une équipe de France ou l'Argentine ou l'Angleterre, des grosses équipes comme ça? On verra ce qu'il va faire, mais de toute façon, ils allaient réagir. C'était obligé après le match du Cap-Vert et ils ont très bien réagi.
Bon, l'Espagne, Walid, tu vas en dire un petit mot quand même. Le plaisir de revoir Lamine Yamal sur le terrain, frais, heureux, premier but en Coupe du Monde, 8e plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est passé devant un certain Maradona pour 14 jours, notamment. Et 2e plus jeune joueur à ouvrir le score dans un match de Coupe du Monde. Les stats ne servent un peu à rien, mais quand même.
Derrière.
Qui raconte, hein.
Derrière.
J'ai pas le premier.
Bah si.
Évidemment. Ouvre le score, c'est,
ouais, c'est plus évident.
Plus jeune qui ouvre.
Ouais. Oui, bah,
qui ouvre le score.
Qui était le premier, ouais.
Ouais, le plus fort.
Très simple.
Un des plus forts de l'histoire.
Voilà, tu vois, finalement, tu connais pas que la faune et la flore, tu connais bien le foot aussi.
Ça va, Walid? Comment ça va? Sur l'Espagne, Lamine Yamal.
Il a tout donné sur Renard.
Mais écoutez, ici, il est en faible, en fort. Il est en train d'alterner.
J'écoute l'animateur, Julien, il me dit, là, c'était trop foufou, tu parles trop, etc. Bah, j'attends mon tour.
Oui, il est caricatural. C'est vraiment l'élève qui voûte, quoi. Arrête de lever la main, c'est bon. On sait que t'as les réponses, laisse participer les autres.
Les gars, vous me sentez boudé?
Non, non, il est très
à l'écoute.
T'es un peu plus calme que tout à l'heure.
Et bien évidemment, il m'a dit qu'il fallait, sur 3 heures, je vais pas être quand même comme un fou.
Surtout pas. Ah non,
voilà, c'est pas. C'est ce que
oui, mais ne sois pas fantomas non plus pendant 20 minutes, c'est ce que je veux dire.
Quoi. Ça fait pas 20
non,
minutes.
Attends, là, Nouvelle-Zélande,
Égypte. Après, tu me dis, en fait, Nico, comment. Sinon, tu m'appuies le bouton, tu me dis à quel moment je dois accélérer. Mais tu me dis.
Allez, pause.
Ouais.
On fait une pub et on revient dans un instant.
Merci, Nico, pour tous ces conseils, en tout cas.
Avec Julien Laurence, Maxime Chano et Walid Acharchour avec nous ce soir.
Trois-Villes de la Nouvelle-Zélande.
Cette nuit, on est. Comment?
Trois-Villes de la Nouvelle-Zélande.
Auckland, Canberra, Wellington.
Non,
Canberra. Auckland, Wellington. Auckland, Wellington. Christchurch.
Culture
rugby, ça.
Ah voilà, d'accord. Ok. Allez.
Ouais, t'as quand même dit Canberra.
Julien Laurence est avec nous. Il a quitté Manhattan, les beaux quartiers, pour rejoindre le New Jersey, les sans dents,
ouais,
que nous sommes ici. Il est venu avec son t-shirt Yves Saint Laurent.
Non, Louis Vuitton, celui-là.
Ah, Louis Vuitton, pardon. Moi, je connais pas les marques.
Non, mais autant dire, vous pouvez me voir à la télé.
Je connais pas les marques.
Je suis bien habillé quand même. Je me suis être assis à côté de Maxime, mais il fallait que je sois beau, quoi. Donc,
ouais, c'est pas facile.
J'ai fait.
Maxime Chano, pour ceux qui nous écoutent à la radio, a endossé le maillot de l'Espagne.
Et qui a gagné encore une fois.
Tout à fait. Et Walid Acharchour a endossé un t-shirt. Voilà. Qu'on lui a prêté sûrement.
Tu vas le faire bouger.
Et qu'il a attaché comme à chaque fois qu'il mange.
C'est vrai que j'ai un problème.
Mettez un pavoir à cet homme.
Moi, je
vous
ai pas le dire, hein, mais il a balancé direct sur la tâche.
Il tâche énormément à chaque fois.
Il tâche tout.
J'ai un gros problème. Ouais,
c'est incroyable.
Vraiment. Ouais.
Pierre Richard, ouais.
C'est pas très, très grave.
Non, mais comme tu fais un peu de la télé quand même, je pense que.
Parce qu'en fait, le gros problème. Quand je mange, je mets tellement de passion.
Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure.
Je suis un passionné, je passe un vrai moment. Moi, pour moi, en fait, manger, c'est vraiment l'un de mes hobbies préférés. Et
c'est en Nouvelle-Zélande, Égypte.
Non, mais on n'a pas une vie qui est extraordinaire, hormis le foot. Et pour moi, la bouffe. Enfin,
j'aime bien, tu dis on.
Très bien.
Nous, ça va. Hein.
Ouais, très bien.
Après, je me mets à nu. Hein, on est là pour se confesser. Ah, si. Et donc, parfois, je laisse des traces.
C'est libre antenne pour toi. Vas-y.
Voilà, mais je fais tout à fond. À part quand Nico Jamin présente où j'essaie de temps fort, temps faible.
Voilà. Mais c'est important. Et je pense que la France est d'accord avec moi.
Exactement.
J'ai vu plusieurs messages. Ouais. Walid, il parle trop, écrit trop.
Ouais. J'ai eu beaucoup de messages aussi en me disant que Nico, en ce moment, est très agressif.
Bon, là, c'est puéril. Ouais. Je ne rentrerai pas dans ce jeu.
Pour le coup, c'est vrai.
Parlons. Oui, mais c'est puéril de le dire.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est tout.
Oui.
Bienveillance, humanité, football. Nouvelle-Zélande, Égypte, Aurélien Tersin.
Que tu n'es pas.
Voilà un homme bienveillant. Grand commentateur de RMC. Où on est
une demi-heure de jeu, 1-0 pour la Nouvelle-Zélande. Surman à la 15e sur un corner. L'Égypte à l'attaque avec Emma Machour sur le côté gauche. On les voit pas les attaquants égyptiens. Marmouche, il a une bonne frappe quand même à l'entrée de la surface de réparation que Max Crocombe, le gardien néo-zélandais, un petit peu savonné. Mais ça n'a rien donné pour les attaquants égyptiens. Pour l'instant, Mohamed Salah, totalement discret comme Marmouche et Emam Achour. 1-0 pour la Nouvelle-Zélande à la 32e minute. Il va peut-être le faire mentir tout de suite Mohamed Salah. Non, il va perdre le ballon et c'est dégagé par Liberato Cacace, Cassassé, j'avoue je sais pas comment le prononcer, l'Italien, le joueur d'origine italienne sur le côté gauche. On en reste à 1-0 pour les Néo-Zélandais après 32 minutes.
Max Crocombe, c'est la crème de la crème.
Oui. Oula. 1-0 donc pour la Nouvelle-Zélande. Parlons de la Belgique de Rudy Garcia, laborieuse encore une fois. Après le nul contre l'Égypte, celui d'aujourd'hui contre l'Iran, et s'en sort presque bien après le rouge de Nathan Goy, le Lillois, troisième du groupe. Deux petits points seulement avant donc de jouer à Nouvelle-Zélande, qui est pour l'instant leader provisoire de ce groupe.
La Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde de rugby 2007 là, ce qu'on a, c'est une grosse équipe hein, pour la Belgique hein, pour l'instant.
Exactement.
Ah là, ça va pas été vite.
Pour l'instant, la Belgique, ça passe pas. Pour l'instant, la Belgique est éliminée.
Génération vieillissante, en tout cas.
Et bien voilà, c'est le titre de La Vie Tranchée de Max Chano. C'est parti, jingle Chano.
C'est clair qu'ils ont un peu la tête dans le tapis, comme on dit. Hein. Ils ont tendance à revenir sur le même côté.
Moi, ça passe. Hein.
Il n'y a que ça. Je pensais qu'il...
La tête dans le tapis
ça marche.
La tête dans le guidon, apparemment, les pieds dans le tapis. C'est vraiment qu'ils
n'ont
pas
grand-chose.
Les doigts dans la prise. Ouais, c'est vraiment qu'ils n'ont pas grand-chose.
Non. Alors, fin de cycle.
Fin de cycle.
Génération terminée.
Bah oui, justement. Achevé. Alors, je voulais faire un bilan, moi, de cette équipe de Belgique, hein, qui, encore une fois, cet après-midi, m'a déçu, comme beaucoup, j'imagine, après avoir déjà concédé le match nul face à l'Égypte. Elle a été incapable de s'imposer contre l'Iran. C'est quand même un autre adversaire, mais qui est pourtant loin de faire partir du grintin mondial. Mais finalement, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est vraiment une surprise quand tu regardes un petit peu cette équipe belge? Je peux pas m'empêcher évidemment de faire le parallèle avec les propos de Jean-Michel Larquet par rapport au Brésil, où est-ce qu'il disait qu'il ne reconnaissait plus le Brésil qu'il avait connu sur ces dernières années. Ben, j'ai envie de faire exactement le même constat avec cette Belgique qui est aujourd'hui, moi, bien loin de celle qui m'a fait rêver en 2018, à l'époque où les Diables Rouges voilà, pouvaient compter sur une génération dorée, Courtois, Kompany, Vertonghen, De Bruyne, Hazard ou encore Lukaku, des joueurs qui étaient leaders, titulaires et même capitaines dans leur club et qui venaient mettre tout leur talent au service de la sélection. Alors forcément, quand on compare aujourd'hui avec l'équipe que j'ai vue, le 11 aligné poste pour poste avec l'équipe actuelle, enfin l'écart est immense. Alors je suis en train de me poser la question, comment on en était arrivé là? Tu vois, certains pointeront du doigt évidemment Rudy Garcia en pointant les difficultés pour le sélectionneur français, enfin de belge en tout cas, à trouver une identité de jeu à cette équipe. Mais pour moi, l'explication elle est beaucoup plus simple. Faut juste accepter voilà que la nation elle est arrivée à la fin d'un cycle. Le football, ça fonctionne comme ça. Les générations exceptionnelles finissent toujours par passer. Et la force est de constater que les joueurs qui arrivent derrière, en tout cas en Belgique, n'ont pas forcément du même niveau. Mais oui. Là où moi j'ai envie de faire le parallèle, c'est surtout par rapport au Portugal. C'est par Portugal, parce que finalement, qui est à la base de tout ça? C'est pour moi un homme qui s'appelle Roberto Martinez, voilà, qui avait entre les mains la meilleure génération de l'histoire du football belge, et pourtant il a échoué. Il a échoué à les faire gagner, et donc forcément, quand je revois ce Roberto Martinez de 2018 et que je fais le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Portugal, j'espère sincèrement que l'histoire va pas se répéter, parce que je vois beaucoup de similitudes entre les deux projets. Et aujourd'hui, tu vois, Martinez, quand tu regardes un peu le Portugal, il dispose d'un effectif exceptionnel, comme à l'époque de la Belgique. Maintenant, reste à savoir s'il aura enfin arrivé à transformer cette équipe du Portugal, en tout cas cette génération dorée, en une génération victorieuse. Moi, j'ai un gros doute.
Bon, voilà l'avis de.
J'aime bien, c'est un avis tranché de Max. Roberto Martinez et.
Oui, oui, il a mixé. Il a voulu aller sur Roberto Martinez.
Non, mais c'est un peu ça. Mais en fait, je voulais expliquer qu'aujourd'hui, cette génération dorée, bon, évidemment, 2018. si elle n'a pas été victorieuse alors qu'il y avait des qualités exceptionnelles, c'est aussi à cause d'un monsieur. Et aujourd'hui, il se retrouve exactement dans le même projet que le Portugal, ce fameux Roberto Martinez, des individualités qui sont juste exceptionnelles. Et quand on voit un peu le premier match poussif, je me pose la question, est-ce que le vrai problème de cette équipe belge, en fait, qui a été pendant ces 4-5 dernières années, ça serait pas le problème Roberto Martinez, en fait?
Intéressant. Alors, 2018, avec... c'était pas Roberto Martinez, mais je vois ce que tu veux dire.
Non, 2022, en tout cas, c'est cette génération. Ce j'ai dit 2018.
2018,
c'est Villemot, 2018, je crois.
Non, c'est Roberto Martinez, Jules.
C'est déjà 2018.
C'est déjà Roberto Martinez, oui, bien sûr.
Parce que j'explique par là.
Attends, tiens, je vais vous sortir quand même, parce que tu parles de fin de génération.
Contre le Pays de Galles. Ils sortent contre le Pays de Galles à l'Euro 2016.
On a longtemps dit.
Avec Villemot.
Exactement. On a longtemps dit que la Belgique a loupé sa génération. La génération a loupé sa consécration. Celle 2018, c'est ça. Celle des Fellaini, des Witsel Prime, des compagnies Aldeverel, Eden Hazard, bien sûr.
Ça, Dembélé.
Moussa Dembélé, Lukaku Prime à peu près, ouais. Voilà, c'est ça. Non,
mais
quoi.
Après là, il te reste De Bruyne 34 ans, Courtois 34 ans.
Ouais, et puis Lukaku,
oui, mais bon, 33 ans, mais Lukaku, jamais de la vie, doit être titulaire.
Il a joué une heure en 2026.
Parce qu'aujourd'hui, tu peux aussi regarder le match et parler un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure avec l'Uruguay. Ils ont encore 1,7 ou 8
tirs. Ils ont 23 tirs, 7 tirs cadrés.
Voilà, contre l'Égypte, c'était un petit peu pareil aussi en seconde période. Ils doivent gagner, ils ont des grosses occasions, etc.
Un peu moins quand même.
Ouais, mais c'est pareil, ils ont expected goal de 1,8 aussi, un truc comme ça.
C'est vrai que c'était un match de gardien.
Ouais, mais
le gardien ouais. Il fait un très bon match.
Mais aujourd'hui, t'as pas de coups aujourd'hui. Donc t'as pas cette vitesse à gauche et cette percussion.
Ouais, mais pas que
non,
aujourd'hui.
Non, mais
vas-y, Julien. Laissez-vous parler, les gars.
D'ailleurs, je vais aller dans ton sens. Parce qu'aujourd'hui, Rudy Garcia, il fait n'importe quoi. Son match, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que Fernandez Pardo entre à la 85e minute dans un match comme ça, où tu fais 0-0, même à 10 contre 11? À un moment, vas-y, tu joues contre une équipe en face qui doit jamais être à ta hauteur, que tu dois battre tous les jours. Et je comprends pas ses choix tactiques, comprends pas ce qu'il a fait, je comprends pas ses décisions pendant le match.
Je l'entends.
Dans l'avant-match. Pour moi, encore une fois, Martinez était un problème déjà. Alors Villemot, je pense, l'était aussi, parce que je pense que c'est pas un bon entraîneur. Martinez, j'ai des énormes doutes aussi. Et moi, je vois Rudy Garcia. Je suis désolé, mais pour moi, Rudy Garcia.
Mais il a pas le même matos, hein. Il a pas le même matos. Quand tu regardes aujourd'hui le 11 titulaire, sans Doku, t'as un Lukaku qui avance plus, qui a joué 100 minutes cette saison avec le Napoli. T'as un Kevin De Bruyne qui est l'ombre de lui-même. Et derrière,
c'est fort.
T'as dit qui? Mais quel est?
De Ketteler. De Ketteler,
ouais.
C'est un très bon joueur.
Mais bon, ça joue pas sur le terrain. Exactement. C'est un éternel espoir. Et une fois sur le terrain, ça avance plus. Non,
mais faut jouer sur ses qualités aussi.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes, et c'est la raison justement de mon avis tranché, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de mettre la Belgique comme une favorite.
Ça,
c'est terminé. C'était le cas en 2018. En tout cas, la Belgique reste quand même une nation respectée du football.
Oui,
et quand
ça,
tu regardes
sûr.
Individuellement, excuse-moi, ah, Walid, que t'as Brandon Mekele derrière qui joue au club de Bruges, que t'as même Tillmans qui est que l'ombre de lui-même, parce que Aston Villa, on a vu sur la fin de saison, il a quand même été énorme. Enfin, aujourd'hui, t'as plus de qualité dans cette équipe.
Mais je pense
pouvoir entraîner
un dernier
carré.
Aussi.
Et c'est la raison pour laquelle j'avais mis en avant Roberto Martinez. Pour moi, ils ont laissé passer
le match.
C'est terminé. La Belgique, il va falloir qu'ils s'habituent à terminer en huitième de finale, parce que c'est ce qu'on va s'attendre sur les prochaines
compétitions. Devant la Belgique aujourd'hui, tu prends Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, c'est au-dessus de la Belgique pour une victoire finale.
Ouais.
Non, mais je mets pas la Belgique aujourd'hui. Quand tu parles de la Belgique, tu dis s'ils font quart de finale, c'est très très bien. Faut rappeler que sur la dernière compétition, ils avaient été éliminés en phase de poule, hein, qu'il y avait eu un dernier match, il me semble, contre la Croatie où Lukaku avait raté énormément d'occasions déjà à l'époque, ouais. Et ça avait été un échec. Donc moi sur le match, de toute façon. Je suis d'accord avec Maxime. À partir du moment où tu vois le match de Kevin De Bruyne, qui est catastrophique aujourd'hui par rapport à ce qu'on attend et par rapport à ce qu'on a eu de ce joueur extraordinaire. Lukaku qui a fait une bonne entrée, mais pour moi c'est plus un impact player qu'un joueur qui peut entrer physiquement. Il a la ramasse complète
aujourd'hui.
Moi je pense avec les deux matchs là. Tu dois faire du 60-30 avec Lukaku 30 minutes parce que il peut t'impacter
60 une... c'est-à-dire comment
c'est du Ketteler de retour
ou Fernandez Pardo en 9 comme Fernandez comme à Lille
mais oui, tu penses la non sélection d'Openda ça peut être
il a fait un choix entre Openda ouais. Parce qu'il pouvait pas prendre Openda et Lukaku et de Ketteler il a essayé de mettre de la jeunesse mais quand je vois les bourbiers qu'il peut avoir sur le banc des Fernandez Pardo des Diego Moreira aussi qui amène pas mal de vitesse il y a un moment moi je pense qu'il a le contre de chaise où en fait il était en fin de cycle mais c'est pas une véritable fin de cycle parce qu'il a Lukaku et De Bruyne et à partir du moment où ces deux joueurs là sont dans ton groupe et qu'ils ont l'expérience que d'autres n'ont pas bah, notamment ceux que je viens de citer qui vont faire leur première compétition bah, il a un peu le cul entre deux chaises il est en train de se dire mais finalement est-ce que je lance les jeunes et puis derrière il y a ceux qui sont pas jeunes mais pas vieux, les Trossard, ouais, les deux Kietteler.
Ça, c'est 31 ans.
Non,
vieux,
31 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas jeune en termes d'âge que je veux expliquer. L'expérience. C'est en termes de vécu. Ouais. C'est-à-dire que Trossard, en termes de compétition par rapport à De Bruyne et Lukaku, il n'était pas dans la génération des Hazard, etc. Ouais. Donc, il est un peu plus frais. Et puis, normalement, Trossard, il a Arsenal. Et en fait, ça doit être sa compétition. Ça doit être la compétition où il arrive, entre guillemets, entre 28 et 32 ans à son prime. Ouais, son prime. Donc, voilà. En fait, pour moi, il y a un vrai mix qui n'arrive pas à trouver Garcia. Et puis en plus, et après derrière, c'est très faible. C'est très faible. La chaleur centrale. Ouais. Même si N'Goy, pour moi, il fait des bons matchs.
Ouais, c'est des erreurs.
Mais il se tue. Sur des erreurs de concentration, un manque de concentration.
Il est coutumier du fait. Hein.
Oui, mais ces matchs sont pas mauvais.
Non.
En fait, il regarde les matchs, sincèrement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il crève l'équipe. Et à un moment donné, c'est un peu comme à l'époque des Upamecano quand ils étaient plus jeunes, les Saliba, etc. Ils pouvaient faire des matchs énormes. Saliba, il l'a dit dans un interview à l'équipe là récemment. Il disait, quand j'ai démarré, moi, à Saint-Etienne, etc., je faisais des super matchs, mais à chaque fois je faisais une erreur. Donc voilà, aujourd'hui donc il le paye, et c'est vrai que même au milieu de terrain, moi je trouve que ça manque.
Raskin, Tillman, c'était moyen.
Ouais, mais alors que pour moi il y a des joueurs au milieu de terrain, il y a Onana, Tillman. Ça doit être. Oui, mais il y a aussi une différence entre ce qu'on pense des joueurs belges, ce qu'on voit en première ligue de ces joueurs-là, et ce qu'on voit en sélection.
Mais ça, c'est le moi, je suis un sélectionneur.
Je trouve que
c'est pour ça qu'on revient à Rudy Garcia.
Onana et Tillman, à Aston Villa, c'est un super joueur.
On revient à Tillman.
Mais quand je regarde la Belgique, je suis pas sur le cul quand je le vois jouer.
Sélectionneur.
Voilà.
C'est une pique.
Mais enfin.
Parce qu'il est mal entouré. C'est comme Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, si tu lui demandes de faire l'effort contre effort, il est pas en mesure. Si personne ne tourne autour de lui, c'est très, très compliqué.
Et puis, c'est toujours, la même chose avec cette équipe. On est toujours déçus.
Et puis, tu l'as dit, individuellement parlant, que ce soit N'Goy ou Mekele, enfin, excuse-moi, tu peux pas aller très, très loin dans une compétition avec des joueurs comme eux, alors que j'ai fait la comparaison avec 2018 où tu avais Compagnie, Vertonghen, Alderweireld, enfin tu avais vraiment des joueurs exceptionnels qui jouaient à Tottenham, à City. Tu as parlé de Tillman, mais pourquoi pas mettre Onana alors que, enfin, tu vois, tu
il a mis Onana sur le match, hein.
Ça fonctionne pas. Moi, le constat que je fais avec cette Belgique, c'est que je les ai beaucoup regardés pendant les qualifs et ils étaient en mesure d'arriver à gagner contre les petites nations. Par contre, ils avaient du mal, justement, ils avaient ce plafond de verre contre les grosses nations. Mais là, ce qu'ils nous ont montré sur les deux premiers matchs, c'est là que tu te rends compte que même contre les petites nations, entre guillemets, parce que l'Égypte n'est pas une petite nation, mais enfin pardon, l'Iran. L'Iran n'est pas une petite nation, mais tu sens quand même que on parle pas de l'équipe de France, on parle pas de l'Espagne. Et là, aujourd'hui, tu te rends compte que même contre les nations qui sont censées quand même être à leur portée, ça devient très, très difficile.
Et puis, il y a Doku aussi, l'absence de Doku.
Bien sûr, moi, je me rappelle,
Doku sur les qualifs, parce que tu parlais des qualifs, il fait un match au Pays de Galles. Où il fait un match monstrueux, c'est lui qui les qualifie. Ouais. Parce qu'ils sont dans la merde, hein, sur les qualifs, la Belgique, à un moment. Et là, Doku, tu l'as pas. Déjà, sur le premier match.
C'est quoi, c'est problème respiratoire? C'était,
C'est problème respiratoire. Médical, et effectivement, il s'agit de problème respiratoire.
Médicalement, il est pas à 100%.
Sans lui, qui est vraiment le mec. Et puis, t'as eu les occasions, t'as pas été assez efficace. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire, la Belgique? Je vais te dire, ils vont sûrement faire au moins un nul contre la Nouvelle-Zélande.
Ils vont faire un sixième de finale, et puis voilà.
Peut-être un huitième, et ils diront que c'est positif parce que
ça reste aussi un pays de 11 millions d'habitants qui a fourni de manière anormale beaucoup de grands joueurs début du 21e siècle.
Et puis surtout, Nico,
t'as pas les ressources de voisins européens aussi.
Le dernier résultat n'avait pas été positif, donc tu feras mieux que 2022. Tu vas avoir Lukaku et De Bruyne qui vont arrêter leur sélection, ils vont repartir sur autre chose.
Et c'est la suite qui fait peur,
et c'est ça qui va, oui,
la suite qui fait peur.
Mais en fait, ce qui a fait du mal aussi, c'était Desco, c'était
catastrophique. Mais après, à un moment donné, il faut se le dire, si tu dis que Rudy Garcia c'est une pipe, que Tedesco c'est une pipe, que Lautaro Martinez, que Roberto Martinez c'est une pipe, que Wilmot c'était une pipe.
Tu peux pas comparer. Alors, j'entends ce que tu veux dire, Wally, t'as raison.
Les effectifs sont très différents.
Les effectifs étaient complètement différents. C'est pour ça que moi j'ai mis en avant.
Ouais, mais il y a un choc. Il y a quand même un choc.
Roberto Martinez.
C'est récurrent.
Non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai mis en avant justement Roberto Martinez parce qu'il se retrouve pour moi exactement dans la même situation avec le Portugal. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet avis tranché. C'est qu'aujourd'hui, déjà, je pense qu'il faut faire une croix sur cette équipe belge. C'est-à-dire qu'il faut oublier d'arrêter, en tout cas, de la mettre pas dans les favorites, parce que t'as raison, Walid, personne les a mis dans les favorites, mais t'as toujours l'idée, en tout cas, tu considères toujours la Belgique comme une grosse nation, on est d'accord?
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le matos,
c'est éternel
outsider.
Ouais, éternel outsider.
Moi, demain, tu me dis les États-Unis ou la Belgique, aujourd'hui, je mets une.
C'est chapeau 3 maintenant,
la Belgique. Là, au début de la compétition, tu me dis, écoute, États-Unis ou Belgique?
Avant la compétition, t'as un Lukaku, t'as un De Bruyne, t'as un Tillman, mais c'est important quand même d'avoir t'as un Thibaut Courtois qui est peut-être qui nous a montré d'ailleurs aujourd'hui qui
est encore le meilleur gardien du monde.
Et heureusement qu'il est là aujourd'hui.
Qui est le meilleur gardien du monde.
Trois énormes occasions.
Il sort deux énormes.
Attention, juste pour terminer et faire le parallèle avec le Portugal, parce que pour moi, Martinez est exactement dans le même projet que cette Belgique 2018, et donc on verra ce que ça va donner, mais en espérant que ça, voilà, qu'il ne reproduise pas les mêmes erreurs.